Chapitre 23. Cette nuit, j'ai vu un fantôme. Je ne sais pas si je dois appeler ça un fantôme. En tout cas, ce n'est pas un être vivant, mais une créature sans substance qui n'appartient pas au monde réel. Il suffit d'un regard pour s'en rendre compte. La sensation d'une présence me réveille brusquement. Et je vois cette adolescente. On est au milieu de la nuit, mais la chambre est étrangement claire. Des rayons de lune pénètrent par la fenêtre. J'avais pourtant bien fermé les rideaux avant de me coucher. À présent, ils sont grands ouverts. La silhouette de la jeune fille se découpe nettement dans le clair de lune, lavée par cette lumière lunaire blanche comme de l'os. Elle doit avoir à peu près mon âge, 15 ou 16 ans. Je dirais plutôt 15. Il y a une grande différence entre 15 et 16 ans. Elle est petite et frêle, mais son maintien n'évoque pas la faiblesse. Ses cheveux raides lui tombent dans le cou. Elle a une frange. Elle porte une robe bleu clair évasée qui lui arrive aux genoux. Elle est pieds nus. Les boutons de manchette de sa robe sont soigneusement fermés. Un décolleté rond met son joli cou en valeur. Elle est assise devant le bureau, regarde un point sur le mur. Elle semble rêvasser, comme si elle se remémorait des souvenirs récents et agréables. De temps à autre, une esquisse de sourire apparaît sur ses lèvres. Cependant, comme elle est à contre-jour dans le clair de lune, je n'arrive pas à distinguer les nuances de son expression. Je fais semblant de dormir. Quoi qu'elle fasse, je ne veux pas la déranger. Je retiens mon souffle, essaie de ne pas faire remarquer ma présence. Je suis sûr que cette fille est un fantôme. D'abord, elle est trop belle. Non seulement elle a un visage sublime, mais tout en elle est trop parfait pour qu'elle soit réelle. On la croirait sortie d'un rêve. La pureté de sa beauté éveille en moi une émotion proche de la tristesse. Un sentiment très naturel, mais que seul quelque chose d'extraordinaire peut susciter. Enveloppée dans mes couvertures, je retiens mon souffle. Elle est immobile. Une joue dans la main, le coude sur le bureau. De temps à autre, son menton change de position. Elle modifie imperceptiblement l'angle de sa tête. Tout près de la fenêtre, le tronc d'un gros cornouiller luit paisiblement dans la nuit. Le vent est tombé. Aucun son ne parvient à mes oreilles. Comme si j'étais mort et que je ne m'en sois pas rendu compte. C'est ça. Je suis mort. Et cette fille et moi sommes tous les deux au fond d'un profond lac de cratères. Soudain, elle ôte la main de sa joue, pose ses deux paumes sur ses genoux. Au bas de sa jupe, on distingue deux petits genoux serrés l'un contre l'autre. Alors, comme si une idée lui était venue à l'esprit, son regard se détache du mur. Elle pivote et regarde dans ma direction. Elle porte la main à son front, touche la frange qui tombe sur ses yeux. Ses doigts fins d'adolescente restent posés quelque temps sur son front, comme si elle essayait de se rappeler quelque chose. Elle me regarde. Mon cœur bat avec un bruit sec, mais, chose surprenante, je n'ai pas l'impression qu'elle me voit. Peut-être que ce n'est pas moi qu'elle regarde. Plutôt, quelque chose derrière moi. Tout est calme au fond du lac de cratère où nous avons sombré tous les deux. Le volcan n'est plus en activité depuis longtemps. La solitude s'est accumulée sur ce lieu comme une douce coulée de boue. Le peu de lumière qui traverse l'eau éclaire d'une lumière blanche les recoins, tels des vestiges de souvenirs lointains. Dans ces profondeurs, on ne trouve pas de signe de vie. Pendant combien de temps m'a-t-elle regardé ou a-t-elle regardé dans ma direction? Je me rends compte que la loi du temps ne s'applique plus ici. Ici, le temps s'étire ou stagne selon les circonstances. Tout à coup, La jeune fille se dresse sur ses jambes minces et se dirige vers la porte d'un pas silencieux. La porte ne s'ouvre pas, mais elle disparaît à travers. Je reste immobile au fond de mon lit. Je garde les yeux entrouverts, je ne fais pas un geste. Elle va peut-être revenir. Je voudrais qu'elle revienne. Mais j'ai beau attendre, elle ne réapparaît pas. Je soulève la tête pour jeter un regard sur les aiguilles fluorescentes du réveil à mon chevet. 3h25. Je me lève, effleure la chaise sur laquelle elle était assise. Je ne sens aucune chaleur. J'inspecte le bureau. N'aurait-elle pas laissé, ne serait-ce qu'un cheveu? Mais je ne trouve rien. Je m'assieds sur cette chaise, me masse les joues et pousse un long soupir. Je n'arrive pas à me rendormir. J'éteins et m'enfonce sous les couvertures. Impossible de dormir. Je prends conscience que je suis étrangement attiré par cette fille. J'ai ressenti dès que je l'ai vue un sentiment inconnu, quelque chose de fort, de violent, qui naissait dans mon cœur, s'y enracinait et grandissait. Mon cœur, enfermé dans la tiédeur de ma cage thoracique, se dilate et se contracte encore et encore. Je rallume la lumière, m'assieds sur le lit en attendant l'aube. Je n'arrive pas à lire ni à écouter de la musique. Je ne peux rien faire. Je ne peux que rester assis là, à attendre le matin. Quand le ciel commence à blanchir, je parviens enfin à dormir un peu. Je crois que j'ai pleuré dans mon sommeil parce que l'oreiller est froid et humide quand je me réveille. Mais j'ignore pourquoi j'ai versé ces larmes. Peu après 9h, j'entends le bruit de la Mazda d'Oshima. Ensemble, nous préparons l'ouverture de la bibliothèque. Ensuite, je m'apprête à lui faire un café. Il m'explique la méthode pour qu'il soit bon. Il faut moudre les grains à la main, au moulin. Faire bouillir de l'eau dans un récipient spécial à col étroit, laisser reposer un peu, puis mettre la poudre dans un filtre à café et verser l'eau dessus en prenant son temps, tout son temps. Une fois le café prêt, Oshima y ajoute un tout petit peu de sucre, une pincée symbolique. Il ne met pas de crème. « C'est la meilleure façon de boire le café », affirme-t-il. De mon côté, je me prépare un Earl Grey. Oshima porte une chemise marron satinée à manches courtes et un pantalon de lin blanc. Il essuie ses lunettes à l'aide d'un mouchoir propre qu'il sort de sa poche et me regarde. « On dirait que tu n'as pas assez dormi. »« Je voudrais vous demander quelque chose. »«
Vas-y. »«
J'aimerais écouter Kafka sur le rivage. »« Pourriez-vous trouver le 45 tours ?»«
Tu ne préfères pas un CD ?»«
J'aimerais mieux un micro-sillon. » Je voudrais l'écouter avec le son d'origine. Pour ça, il faudrait aussi un tourne-disque. Oshima réfléchit, un doigt posé sur la tempe.
Je crois bien qu'il y a une vieille chaîne stéréo dans la réserve, mais je ne sais pas si elle fonctionne encore.
La réserve est une petite pièce donnant sur le parking, seulement éclairée par une lucarne haute. Divers objets, datant de différentes périodes, y sont conservés dans l'anarchie la plus complète. Il y a là des meubles, de la vaisselle, des magazines, des tableaux. Certains ont sans doute de la valeur, mais la plupart ne valent pas un clou, à mon avis.
Il faudrait s'occuper de ranger tout ça un jour. Mais personne n'en a eu le courage jusqu'à maintenant, remarque sombrement Oshima.
Dans cette pièce où le temps semble s'être arrêté, nous découvrons une ancienne chaîne stéréo sans dessus. Elle est encore en bon état. Mais 25 ans au moins ont dû s'écouler depuis l'époque où ce modèle représentait le nec plus ultra du modernisme. L'appareil est recouvert d'une fine couche de poussière. Il y a un amplificateur, un tourne-disque, des écouteurs et, à proximité, une collection d'une trentaine de vieux 33 tours des années 60. Les Beatles, les Rolling Stones, les Beach Boys, Simon & Garfunkel, Stevie Wonder. Je sors les disques de leurs pochettes. Celui ou celle qui les écoutait devait en prendre soin. Ils n'ont pas une seule rayure ni une trace de moisissure. Je découvre aussi une guitare dans le débarras. Elle a encore ses cordes. Il y a un tas de vieux magazines inconnus et une raquette de tennis à l'ancienne mode. On dirait les vestiges d'un passé complètement révolu et en même temps pas si lointain. Les disques, la guitare et la raquette de tennis appartenaient au petit ami de Mademoiselle Saeki, m'explique Oshima. Comme je te l'ai déjà dit, il habitait dans ce bâtiment. Après sa mort, on a dû mettre toutes ses affaires en vrac dans cette pièce. La chaîne stéréo a l'air de dater d'une époque un peu plus récente. Nous transportons la platine et les disques jusqu'à ma chambre. Nous la dépoussiérons, branchons la prise, connectons le tourne-disque à l'amplificateur et le branchons également. Le témoin vert de l'amplificateur s'allume et le tourne-disque se met à tourner doucement. Après avoir vérifié que l'aiguille de la tête de lecture est en bon état, je dépose un vinyle rouge sur le plateau, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, et la fameuse intro à la guitare sort du haut-parleur. Le son est beaucoup plus net que je l'avais imaginé. Le Japon a bien des problèmes, mais il faut lui reconnaître son génie technique, dit Oshima, impressionné. Cette stéréo n'a pas dû être utilisée depuis bien longtemps, et elle a un son impeccable. Nous écoutons Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band un moment. J'ai l'impression d'entendre une musique différente de la version CD que je connaissais jusqu'ici. « Nous avons un appareil pour l'écouter, » dit Oshima. « Mais il n'est pas sûr que nous puissions trouver un exemplaire du 45 tours de Kafka sur le rivage. C'est devenu une rareté. Je demanderai à ma mère si elle en a gardé un exemplaire. Sinon, elle pourrait connaître quelqu'un qui l'a. » Je hoche la tête. Oshima dresse son index comme un prof qui avertit un de ses élèves. « Je te l'ai déjà dit, mais surtout, ne mets pas ce morceau quand Mademoiselle Saeki est là, quoi qu'il arrive. C'est bien clair. » Je fais oui de la tête. « C'est comme dans le film Casablanca, » ajoute Oshima, qui se met à fredonner le début de « As time goes by ». « Joue tout ce que tu veux, sauf ce morceau. » Je me risque à poser la question qui me brûle les lèvres. « Dites, Oshima-san, je voulais vous demander, est-ce qu'une fille d'une quinzaine d'années fréquente cet endroit ?»«
Cet endroit, tu veux dire la bibliothèque ?»
J'acquiesce. Il penche un peu la tête, réfléchit un moment.
« Pas que je sache, » dit-il. « Il n'y a pas de fille de 15 ans par ici, du moins à ma connaissance. »
Puis il me dévisage comme s'il regardait une pièce à travers une fenêtre.
« Pourquoi cette énigmatique question ?»«
J'ai cru apercevoir une fille de mon âge l'autre jour, » dis-je.
« Quand ça, l'autre jour ?»«
Hier soir. »«
Hier soir ? Tu as vu une jeune fille ici ?»«
Oui.
Comment était-elle ?»
Je rougis un peu. « Je ne sais pas. Une fille comme les autres, avec des cheveux jusqu'aux épaules et une robe bleue. »«
Elle était jolie ?»
Je hoche la tête.
C'était peut-être une hallucination née de tes fantasmes, dit-il en souriant. Le monde est plein de phénomènes étranges. Des visions de ce genre n'ont rien d'anormal de la part d'un hétéro en pleine force de l'âge.
Je me rappelle qu'Oshima m'a vu nu dans la montagne, et je rougis encore plus. Pendant la pause déjeuner, Oshima me tend discrètement une enveloppe blanche dans laquelle je trouve le 45 tours de Kafka sur le rivage.
J'avais raison. Ma mère l'avait, et en 5 exemplaires. Elle garde toujours tout, elle est incapable de jeter quoi que ce soit. Une habitude insupportable la plupart du temps, mais pour une fois, appréciable.
Merci. Je retourne dans ma chambre, sors le disque de l'enveloppe. Il n'a jamais dû être écouté car il paraît étrangement neuf. J'examine la pochette. On y voit une photo de Mademoiselle Saeki à 19 ans. Elle est assise devant le piano du studio d'enregistrement et regarde droit vers l'objectif. Elle a une joue posée dans la main, le coude sur le pupitre, et penche légèrement la tête, esquissant un sourire timide mais plein de naturel. De petites lignes charmantes se dessinent au coin de ses lèvres fermées. Elle n'est pas maquillée, apparemment. Une barrette en plastique retient sa frange, l'empêchant de tomber sur son front. Le bout de son oreille droite pointe entre ses cheveux. Elle est vêtue d'une courte robe bleue pâle, évasée, et porte pour seul bijou un bracelet en argent au poignet gauche. Une paire de magnifiques sandales est jetée au pied du tabouret du piano et les jolis pieds de Mademoiselle Saiki sont nus. On dirait qu'elles symbolisent quelque chose, une époque, un lieu et aussi un certain état d'esprit. Elle a l'air d'une fée qu'un heureux coup de baguette du destin aurait fait apparaître. Une naïveté, une innocence intemporelle et vulnérable flottent autour d'elle comme des spores dans l'air printanier. Sur cette photo, le temps est arrêté. 1969. C'était bien avant ma naissance. Naturellement, je savais que l'adolescente qui avait visité cette chambre hier soir n'était autre que Mademoiselle Saiki. Je l'ai toujours su. Je voulais juste le vérifier. Elle a 19 ans sur la photo et fait plus adulte, plus mûre qu'à 15 ans. Les contours de son visage sont plus anguleux. Elle semble plus sûre d'elle aussi. Mais globalement, elle est la même qu'à 15 ans. Son sourire est exactement celui de l'adolescente que j'ai vue hier, jusque dans sa façon de poser la joue dans sa main et de pencher la tête. Et la femme d'aujourd'hui a conservé cette même physionomie, cette étrange aura. Je vois dans ses expressions et ses gestes la jeune fille qu'elle était à 15 et à 19 ans. Ses traits réguliers et son air de fée détachée de la réalité sont toujours là. Et je constate, avec ravissement, que même sa silhouette a à peine changé. Cependant, la photo de la pochette du disque a gardé une trace d'une chose que la femme mûre a définitivement perdue. Une sorte de jaillissement d'énergie. Pas quelque chose d'éclatant, non. Un appel transparent et discret qui va droit au cœur, comme de l'eau jaillissant d'entre les rochers. L'éclat de cette force illumine la jeune fille assise devant le piano. Derrière son sourire, on entrevoit le beau chemin qu'emprunte le cœur des gens heureux. Comme lorsqu'on garde derrière les paupières la trace des lueurs que dessinent les lucioles dans l'obscurité. La pochette à la main, je reste assis sur le lit, sans penser à rien, laissant le temps passer. Puis je rouvre les yeux, me dirige vers la fenêtre, inspire l'air de dehors. Le vent sent la marée. La vraie Mademoiselle Saiki est bien vivante. C'est une femme de plus de 50 ans qui mène une vie réelle dans un monde réel. En ce moment même, elle doit être en train de travailler à son bureau au premier étage, comme d'habitude. Il me suffit de quitter cette pièce et de monter l'escalier et je la verrai. Je pourrais parler avec elle. Et pourtant, la jeune fille que j'ai vue ici est son fantôme. Personne n'a le don d'ubiquité, a dit Oshima. Pourtant, dans certains cas, cela se produit. J'en ai la conviction. De son vivant, un être humain peut devenir un fantôme. L'autre fait important et incontestable, c'est que je suis attiré par ce fantôme. Je suis attiré non par Mademoiselle Saiki, mais par le fantôme de celle qu'elle était à 15 ans. Et avec une telle force que je ne peux l'exprimer avec des mots. Mais cela est indéniable. Si cette adolescente n'est pas un être réel, c'est pourtant mon cœur réel qui bat si fort dans ma poitrine, tout comme était réel le sang sur ma poitrine ce soir-là.